Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Enshorah. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et mis bas de toi ton fardeau qui écrasait ton dos et élevé haut pour toi ta renommée? Oui, car à côté de la difficulté est une facilité. Quand tu es libre donc, lève-toi et aspire à ton Seigneur.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 1er mai 1402 du calendrier iranien, 23 septembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran mène de très bonnes négociations avec l'Égypte et rétablit ses relations avec Djibouti. L'Iran a dénoncé le premier ministre israélien pour sa rhétorique comique. Téhéran est favorable au relancement de l'accord nucléaire. Au Karabakh, les Arméniens de la région doivent déposer les armes. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran a dénoncé le premier ministre israélien pour sa rhétorique lors d'un discours à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La mission iranienne auprès de l'ONU a qualifié le discours de Benjamin Netanyahou de spectacle comique. Dans son communiqué, la mission iranienne a déclaré que l'Organisation des Nations Unies est toujours au service d'Israël pour répandre la désinformation et formuler les allégations sans fondement contre l'Iran. Le communiqué ajoute que le régime sioniste cherche à détourner l'attention de ses crimes et de sa politique d'apartheid contre les Palestiniens. Selon le texte, le premier ministre israélien a tenté de présenter le programme nucléaire iranien comme une menace pour la paix mondiale, et ce, alors que le régime sioniste possède tout type d'armes de destruction massive et constitue le principal obstacle à une Asie occidentale exempte d'armes nucléaires. Vendredi, Benjamin Netanyahou a réitéré ses allégations contre les activités nucléaires civiles de l'Iran lors de son discours à l'Organisation des Nations Unies. Il a déclaré que l'Iran devait faire face à une menace nucléaire crédible pour l'empêcher d'acquérir des armes nucléaires. Son bureau a ensuite corrigé son discours, affirmant que Netanyahou avait préalablement préparé son texte qui appelait, cité à formuler, une menace militaire crédible contre le programme nucléaire iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'accord sur le nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan global d'action conjoint, pourrait être relancé si les États-Unis abandonner leur double standard. Hossein Amir Abdollahian a exhorté Washington à exprimer sa volonté de raviver le pacte et par conséquent de lever les sanctions anti-iraniennes. En juillet 2015, l'accord sur le nucléaire iranien, dit plan d'action conjoint, a été signé entre l'Iran, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cet accord mondialement salué devait lever toutes les sanctions contre l'Iran, mais l'accord a été unilatéralement abandonné par l'ancien président américain Donald Trump en 2018. Ce désengagement a eu pour effet le rétablissement des sanctions contre Téhéran, et ce, alors que la République islamique d'Iran a toujours respecté ses engagements dans le cadre de l'accord. Téhéran a critiqué le rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur les droits de l'homme en Iran, Javid Rahman, pour ses liens avec le groupe terroriste anti-iranien Mujahedine Khalq. Kazem Gharibabadi, secrétaire du Haut Conseil iranien pour les droits de l'homme, a soulevé la question dans une lettre adressée au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Il a accusé Rahman de soutenir l'OMK qui a fait couler le sang des milliers d'Iraniens. il a déclaré que les remarques de Rahman lors d'une session parlementaire britannique en juillet illustrent bien son lien et son soutien au groupe terroriste, ajoutant que la position de Rahman montrait également que sa nomination était simplement basée sur des motivations politiques et n'avait rien à voir avec les droits de l'homme. Farid Babadi a également critiqué ce qu'il a appelé la prise de position partiale du rapporteur, déplorant qu'il n'ait jamais soutenu les victimes iraniennes du terrorisme ou des sanctions occidentales illégales. Dans la région du Caucase du Sud, au Haut-Karabakh, les Arméniens de souche sont invités à déposer les armes en vertu d'un accord conclu avec la République d'Azerbaïdjan à la suite de son opération militaire rapide. Moscou a confirmé la reddition des Arméniens armés avec l'aide des soldats de maintien de la paix russe. L'opération militaire a déjà été lancée mardi, ouvrant la voie à la prise de contrôle total du Haut-Karabakh par Bakou. La région est internationalement reconnue comme faisant partie du territoire de la République d'Azerbaïdjan, mais elle est de facto sous contrôle arménien depuis le début des années 1990. L'offensive éclair de la République d'Azerbaïdjan a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de près de 120 000 Arméniens locaux vivant dans cette région montagneuse contestée. Les groupes armés ont déclaré être engagés dans des pourparlers avec Bakou sous les auspices russes pour organiser le processus de retrait et le retour des civils déplacés par les combats. Plus de 30 Palestiniens ont été blessés lors des attaques des forces israéliennes contre des manifestants dans la bande de Gaza assiégée. Les Palestiniens se sont rassemblés vendredi 22 septembre près de la barrière séparant Gaza des territoires occupés en 1948. L'armée israélienne a déclaré que ses forces ont mené des attaques aériennes sur la bande de Gaza. Les manifestants ont également exprimé leur solidarité avec les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, alors que les actes de violence commis par les forces israéliennes et les colons sionistes contre les Palestiniens sont multipliés. Les forces israéliennes ont utilisé des balles réelles et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ces derniers ont replié en lançant des ballons incendiaires vers les colonies israéliennes proches de Gaza, provoquant des incendies. Les forces israéliennes ont ensuite mené des attaques aériennes et d'artillerie contre les positions de la résistance dans l'est de Gaza. Au moins un Palestinien a été blessé. L'armée israélienne a déclaré qu'un drone avait touché deux postes militaires appartenant au mouvement de résistance palestinien Hamas qui gouverne la bande de Gaza. La radio Aqsa, affiliée au Hamas, a rapporté que plusieurs personnes avaient été blessés lors de ces frappes israéliennes. Et enfin, les États-Unis auraient décidé de fournir à Kiev des missiles d'attaque à longue portée après deux mois de spéculation. Les médias américains ont rapporté que le président Joe Biden avait informé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de cette décision. Suite à la visite de Zelensky à Washington, la Maison-Blanche a annoncé un nouveau programme d'aide militaire d'un montant de 325 millions de dollars à Kiev et incluant 4 Abrams. Cependant, la Chambre des députés n'a divulgué aucune décision concernant des missiles à longue portée. On sait toujours que le président ukrainien Zelensky est actuellement en visite officielle au Canada, Canada qui a également promis environ 500 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau programme d'aide. L'aide canadienne comprendra 50 nouveaux véhicules ainsi qu'une formation pour les pilotes d'avions de combat F-16. La Russie a averti à plusieurs reprises que l'afflux d'armes occidentales en Ukraine prolongerait la guerre et aggraverait les souffrances de sa population. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a évoqué le vendredi 22 septembre la rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue égyptien, Sameh Shoukry, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Elle a qualifié de très bonne et positive. En réponse aux journalistes de l'agence IRNA à New York, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que cette réunion marquait une nouvelle évolution positive dans les relations entre la République islamique d'Iran et l'Égypte, étant donné la politique régionale adoptée par le gouvernement du président iranien Ebrahim Raisi. Au cours de la rencontre, des questions d'intérêt commun ont été abordées. Les parties, tout en passant en revue le présent et l'avenir de leurs relations, ont ouvert un nouvel horizon dans les relations irano-égyptienne, a fait savoir le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Le mois dernier, le président du Conseil égyptien des Affaires étrangères, Mohammad Al-Orabi, a déclaré lors d'une interview que des concertations étaient en cours entre le Caire et Téhéran, mais qu'elle ne devrait pas nécessairement être rendue publique. Les interactions diplomatiques entre l'Égypte et la République islamique d'Iran n'ont pas été rompues, mais que des facteurs déterminants, uniques par essence, devraient être pris en compte lorsqu'il s'agit de rétablir les liens, a déclaré Al-Orabi. L'Égypte a rompu ses relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran en 1980, après avoir accueilli le dernier Shah déchu de la dynastie Pahlavi et reconnu le régime d'apartheid israélien. Par ailleurs, l'Iran et Djibouti décident de reprendre leurs relations diplomatiques. Par ailleurs, les ministres iraniens et djiboutiens des Affaires étrangères ont convenu lors d'une réunion de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays conformément aux intérêts et aux idéaux des deux nations. Les deux hauts diplomates qui se sont rencontrés jeudi 21 septembre en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sont parvenus à un accord visant à établir les relations amicales entre Téhéran et Djibouti, ancrées dans le respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité, du bénéfice mutuel et de la coexistence pacifique. Les deux parties ont également décidé de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment l'investissement, le commerce, la science et l'innovation technologique. Les relations entre la République islamique d'Iran et Djibouti ont connu une très bonne tendance dans le passé. Il existe différents domaines de coopération bilatérale a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Il a souligné que la République islamique d'Iran se félicitait du développement des relations avec les pays musulmans et frères et qu'il est intéressé par la normalisation des relations avec Djibouti. Nous considérons Djibouti comme un pays ami et fraternel. La République islamique d'Iran attache de l'importance au développement des relations avec Djibouti en tant que pays musulman important de la Corne de l'Afrique, a-t-il souligné. Nous pouvons établir des relations solides et renforcer la coopération dans tous les domaines, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian.
Bonjour à tous. Notre débat du jour concerne donc le Yémen. Ils ont eu un défilé militaire il y a peu de temps et c'est sur ce sujet que nous allons parler. Notamment durant ce défilé, on a pu voir les forces militaires concernant le domaine terrestre, maritime et aérien. Tout de suite, je vous propose donc un reportage qui nous vous résumera matériel militaire qui a évolué au Yémen pour par la suite faire venir nos deux invités. Qui sont Madame Aïssa Midani et Ahmad Rami. Tout de suite donc, notre reportage.
Du 9e anniversaire de la révolution du 21 septembre, les forces armées yéménites ont organisé un grand défilé militaire sur la place Al-Sabaïn à Sanaa. Selon ISNA, la chaîne d'information Al-Mayadin a annoncé que ce défilé se déroulerait en présence de toutes les unités terrestres, aériennes et maritimes des forces armées yéménites. Le journaliste Al-Mayadin Hassana a annoncé à ce sujet ce défilé militaire est le témoin du dévoilement du nouvel arsenal d'armes stratégiques récemment entré en service. Lors de ce défilé, les forces armées ont également dévoilé pour la première fois des mines marines indigènes de type Masjour et Asif et Oveis. Mohamed Nasser Ahmed Al-Atafi, ministre de la Défense du gouvernement de salut national du Yémen, a souligné dans son discours lors de ce défilé, Sanaa est la capitale des peuples libres, des peuples nobles et confrontée à l'ennemi et elle marque un nouveau chapitre de la nation yéménite. Il a déclaré, nous demandons au peuple yéménite à l'intérieur et à l'extérieur du pays de s'unir contre les ennemis. Sous la direction d'Abdul Malek Badr al-Din al-Houssi, nous travaillons à construire le pays moderne du Yémen. Le Yémen a franchi un tournant et nous sommes désormais entrés dans une nouvelle étape, celle d'un pays fort et indépendant. Al-Atafi a ajouté, le Yémen est le principal pilier de la stabilité régionale et internationale, et le ciblé aura des répercussions au niveau régional et mondial. Il a poursuivi, les agresseurs et les occupants doivent savoir que nous n'accepterons pas leur présence sur notre territoire. Si les agresseurs ne respectent pas les exigences d'une paix honorable qui répondent aux aspirations légitimes et justes de notre peuple, nous sommes prêts à lutter pour défendre notre pays et notre nation. Il a également ajouté, notre nation estime que la paix n'a pas été réalisée et ne le sera pas sans l'imposition d'équations militaires dissuasives qui force l'ennemi à se rendre à toutes les demandes légitimes et justes.
Nous revoilà donc sur le plateau. Alors tout de suite, l'avenue de nos deux invités. Nous commençons par Madame Aïssar Midani. Bonjour Madame Midani, ravie de vous avoir avec nous. Alors c'est toujours un plaisir.
Bonjour, chère Zahra.
C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir votre expertise ici sur les plateaux de Presse TV. Alors merci à vous. Notre deuxième invitant étant Monsieur Ahmad Rami. Bonjour Monsieur Rami, ravi de vous avoir
merci,
avec
bonjour.
Nous.
Merci, bonjour.
Alors, Madame Midani, on commence par vous. Vous connaissez bien la situation au Moyen-Orient, vous connaissez bien la situation du Yémen, puisque vous avez été parmi les rares experts à analyser donc, la situation au Yémen, à indiquer la situation de crise, que ça fait plusieurs années que le Yémen a... Alors, ce défilé militaire est une grande page qui tourne. Est-ce que c'est votre avis également ?
En fait, c'est un grand tournant. Parce que ce défilé militaire, il fait état d'un tas d'armes longue portée, petite portée, des armes stratégiques, des armes dissuasives, des armes de terre, des missiles et des armes maritimes aussi, etc. En fait, effectivement, c'est un tournant que franchit le Yémen, et tout ceci a été construit à l'ombre de non seulement de l'embargo, mais aussi à l'ombre d'une agression qui dure depuis 2015, une agression sans pitié où on a voulu vraiment broyer le Yémen, broyer le peuple yéménite. Hein. Et malgré tout, cette grande résistance du peuple yéménite, avec une volonté d'imposer sa souveraineté et de retrouver sa souveraineté et d'imposer le respect à tous ceux qui veulent l'agresser. D'ailleurs, on a vu que ce sont principalement les américano-sionistes. Mais par le biais à la fois de l'Arabie saoudite, mais aussi des Émirats arabes unis qui se sont retirés après. Mais de toute manière, ce pays qui a été bombardé, mais sans merci, et en fait avec presque une volonté de génocide total, bon, on voit maintenant qu'il monte comme le phénix en fait de ses cendres. Et ce défilé est un message à tous les agresseurs du peuple yéménite, à tous ceux qui veulent l'agresser et tous ceux qui veulent agresser aussi tous les peuples. C'est un message très important, en fait, que non seulement nous nous défendrons, mais nous avons de quoi vous broyer aussi. D'ailleurs, il faut voir que les dernières phases de cette guerre... entre l'Arabie saoudite et le Yémen, elle s'était traduite justement par des attaques importantes par les drones contre les structures économiques de l'Arabie saoudite, notamment les structures du pétrole, les structures d'Aramco. Et ça a été un coup fatal. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des négociations qui ont l'air de porter un fruit positif.
Merci Mme Midani. Alors Monsieur Ahmad Rami, on voit depuis 6 mois une volonté de la part du Moyen-Orient de retourner vers un calme territorial. Plusieurs décisions diplomatiques importantes ont été trouvées durant le début de 2023. Est-ce que, selon votre expertise, vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a une volonté de tourner la page au Moyen-Orient concernant les conflits ?
Bien sûr, le conflit, l'essentiel du conflit, est encore présent. Ça n'a pas été résolu jusqu'à présent. Mais ce défilé est très important et il a justement, c'est un avertissement et il a surtout maintenant démontré que le Yémen a utilisé intelligemment toutes ces périodes de ce qu'on peut dire le cessez-le-feu pour se renforcer et que cette la force militaire du Yémen s'est énormément renforcé et le Yémen aujourd'hui est devenu un facteur de puissance, pas seulement pour le Yémen, mais pour toute la nation arabe et la nation musulmane, parce que le Yémen a été justement, maintenant longtemps, le centre aussi de cette guerre entre le monde arabe et la domination de l'occupation sioniste qui est Israël. Et le Yémen a toujours été, disons clairement, contre la domination sioniste. Il a toujours pris la position qui est celle de tout musulman, de tout arabe, de tout être humain dans la question palestinienne. Et le Yémen a toujours refusé toute, toute normalisation, entre guillemets, avec l'occupation sioniste. Et maintenant, avec l'accord qui s'est passé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine, il y a eu un accalmie et aussi un changement dans le climat politique et militaire dans la région. Mais maintenant, il y a seulement, je crois, quelques jours, on a revu que le responsable de l'Arabie Saoudite sont en train de, d'après leur déclaration eux-mêmes, ils sont en train de négocier avec l'entité sioniste ce qu'on appelle la normalisation avec un occupant ou non, anormal, qui est l'occupation sioniste. Et si vraiment l'Arabie Saoudite change et de position telle qu'elle a été définie par l'accord sous l'égide de la Chine, ça sera grave et dangereux pour toute la région, car l'entité sioniste veut justement occuper politiquement le monde arabo-islamique, y compris bien sûr la région, tout le Moyen-Orient et même le monde arabe.
Merci, monsieur Ahmad Rami. Alors, madame Midani, alors comme vous le savez, il y a eu de différentes manières les attaques de la coalition contre le Yémen. Il y a eu d'un point de vue aérien, d'un point de vue terrestre, mais également maritime, puisque les ports ont été bloqués. Madame Midani, vous avez vu donc ce défilé avec également la liste importante des nouvelles technologies apportées par cette armée. Et elle touche absolument tous les domaines, que ce soit donc terrestre, maritime, et puis aérien. Est-ce que c'est un message du fait que à l'heure actuelle, sous l'égide de l'Oman, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Yémen se parlent directement? Ce sont les dernières nouvelles concernant les relations et le statut de paix qui pourrait éventuellement régner dans le futur. Est-ce que ça peut être un message pour pousser ces deux pays de la coalition à signer cet accord de paix au cas où ces missiles, au cas où ces bateaux et ces forces maritimes puissent toucher donc ces pays-là, et que finalement le conflit change de territoire?
Effectivement, ça fait un certain temps de toute manière que les Yéménites essayent de travailler avec d'ailleurs beaucoup de, comment dire, avec beaucoup de patience et puis de sérieux, essaye de raisonner les Saoudiens. Mais il est clair que de toute façon, le pouvoir saoudien était soumis aussi aux forces, aux pressions américaines, et ces pressions allaient dans le sens effectivement d'un agrandissement du conflit contre le Yémen et puis d'une destruction totale du Yémen, etc. Or, il s'est passé quand même des choses très importantes dans la région comme l'accord important, en fait, qui pour moi est historique, en fait, la reprise des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, en fait, parce que l'Arabie saoudite accusait les Yéménites d'être toujours manipulés par l'Iran, etc., et ils accusaient l'Iran d'être le fomentateur de la résistance yéménite, etc. Donc, en fait, cet accord entre déjà le retour des relations normales entre l'Arabie saoudite et l'Iran a été un changement sous l'égide de la Chine, et ça, il faut le dire et le reconnaître, a été quelque chose de très important aussi dans le dialogue saoudien et yéménite, ça d'un côté. De l'autre côté, bien sûr, les Yéménites, dans leur grande résistance et dans leur grande volonté de souveraineté, de liberté, d'indépendance, qui ne veulent pas être soumis aux diktats américains par le biais des Saoudiens, comme ça a été toujours jusqu'à maintenant, jusqu'au pouvoir d'Abdallah Mansour Hadi, et donc jusqu'au démarrage de cette dite révolution du 21 septembre. Donc là, il y a cette volonté d'exister par eux-mêmes, d'imposer leur souveraineté, le respect de leur souveraineté et le respect du territoire yéménite, mais aussi le respect de l'ensemble des frontières du Yémen. Il est important de voir aussi que le Yémen a un positionnement stratégique très important, parce qu'il est sur les voies maritimes importantes, aussi bien sur le détroit Bab el Mandeb et sur l'embouchure de la mer Rouge. Donc Israël était directement concerné par la destruction du Yémen aussi. Ça lui donnait à elle la possibilité du libre cours dans la mer Rouge, hein, sachant que de l'autre côté, il y a aussi l'Érythrée qui est... très pro-israélien. Donc, en fait, et dans tout cet ensemble, effectivement, et la progression aussi de la Chine ou des relations de la Chine avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite commence à se défaire peu à peu de la mainmise totale des Américains sur sa politique. Et donc, ça, c'est une conséquence, je dirais, directe de cette ouverture de l'Arabie saoudite. Et donc, on va peut-être aller vers non seulement un dialogue plus constructif, mais une reconnaissance quand même de la souveraineté du Yémen et une fin de ce conflit qui n'est pas un simple conflit, mais qui était imposé par les Américains, rappelons-le, au lendemain du décès du roi Abdallah, et que une grande délégation américaine, une trentaine de personnes autour d'Obama sont allées en Arabie saoudite, et que le lendemain, en 2015, et dès le lendemain, la guerre a éclaté contre le Yémen, alors menée par l'Arabie saoudite.
Merci,
donc
Madame
c'était Hidani. Clairement une guerre qui était fomentée par les Américains.
Merci,
maintenant,
Madame Hidani.
On va dans un bon sens. Voilà.
Alors, Monsieur Ahmad Rami, on a entendu cette semaine, alors que le président iranien, Monsieur Ibrahim Raisi, était à New York, que les Émirats arabes unis ainsi que l'Arabie saoudite ne souhaitaient plus l'intervention des États-Unis concernant donc l'accord de paix possible entre le Yémen et eux. On sait aussi que la situation du Yémen, même s'ils ont montré un défilé extrêmement fort, est dans une situation humanitaire extrêmement catastrophique. Est-ce que c'est une manière des deux côtés, et cette pression humanitaire s'est faite notamment par les États-Unis, est-ce que c'est une manière des deux côtés de pouvoir vite trouver une solution?
Oui, je crois que ça sera difficile. D'après les dernières déclarations des responsables saoudiens, ça démontre que ça sera difficile de gérer la situation, car l'Arabie saoudite, le peuple yéménite, c'est-à-dire le peuple de l'Arabie saoudite, des peuples des Émirats sont tous des peuples frères. Et donc les régimes de tous ces pays doivent aussi suivre dans la direction de leur peuple, les intérêts de leur peuple, les intérêts de leur région. Et Israël n'est pas, l'occupation sioniste n'est pas dans l'intérêt mondial, ni de l'intérêt des pays arabes ou musulmans. Cette occupation, disons, empêche toute paix dans le monde arabo-musulman. Et c'est très grave que les dernières déclarations des responsables de l'Arabie saoudite, dans lesquelles, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'ils considèrent, c'est-à-dire les responsables de l'Arabie saoudite, ils considèrent la République islamique d'Iran comme ami, comme frère, ou bien comme ennemi. Parce que les dernières déclarations, disons, m'ont bouleversé personnellement en disant, c'est-à-dire le responsable, en disant que alors que vous le savez, la République islamique d'Iran n'a pas d'armes nucléaires et n'a pas, disons, pour but de se procurer l'arme nucléaire. Le seul pays aujourd'hui, le seul État d'aujourd'hui qui a l'arme nucléaire, c'est l'entité sioniste, l'occupation sioniste. Donc, en réalité, tous les pays arabes doivent donc surtout diriger leur animosité contre l'entité sioniste et lutter contre cette arme nucléaire de l'entité sioniste. Mais les responsables aujourd'hui de l'Arabie saoudite, ils disent que si l'Iran se procure l'arme nucléaire, alors qu'il n'a pas d'arme nucléaire, il ne veut pas le procurer. L'Arabie saoudite va se procurer l'arme nucléaire, mais l'Arabie saoudite n'est pas l'ennemi, le peuple saoudien n'est pas l'ennemi de l'Iran. L'Iran n'est pas l'ennemi de l'Arabie saoudite, ni des Émirats. La force et la puissance de la République islamique d'Iran sera dans l'intérêt défensif, pas offensif, défensif de tous les pays arabes.
Merci, monsieur Ahmad Rami.
Les dirigeants de l'Arabie saoudite et des Émirats, maintenant, ils commencent à se, disons, de nouveau, à se agir comme si ce sont des amis d'Israël et des ennemis de l'Arabie saoudite et de la nation arabe.
Merci, monsieur Ahmad Rami. Madame Midani, alors je répète ma question, plus ou moins. Alors, on sait par les organisations humanitaires que la situation humanitaire au Yémen est très préoccupante. Il a été également indiqué il y a quelques semaines de cela que les aides humanitaires ne vont pas continuer. Les Houthis ont annoncé que c'était une pression américaine pour que ces aides humanitaires cessent. Nous avons donc ce défilé aujourd'hui, mais nous avons également des déclarations des Émirats et de l'Arabie saoudite comme quoi ils ne souhaitaient plus l'intermédiaire des États-Unis pour parler et trouver un accord avec les Yéménites. Est-ce que c'est en faveur donc, du Yémen? Est-ce que les pays comme les Émirats et l'Arabie saoudite ne souhaitent plus avoir à la table des négociations les Américains?
Je crois que de toute façon, ils essayent effectivement d'avoir des relations directes avec les Yéménites. D'ailleurs, les délégations qui se sont rencontrées récemment, l'écho de la délégation yéménite, ils sont plutôt satisfaits, contents. Ils disent qu'il y a une ambiance positive qui a régné sur les derniers pourparlers, que a priori il y a accord sur le fait, mais ils vont voir en fait au niveau de la réalisation. Mais accord au niveau du paiement des salaires des fonctionnaires, d'une part, que d'autre part, libération de l'ensemble des aides humanitaires qui viennent et qui étaient bloquées, et ainsi de suite, un certain nombre de points positifs qui montrent la bonne foi au début et puis une véritable volonté positive de mettre en application les accords, bien qu'ils disent que de toute façon, la pratique va le montrer. Mais aujourd'hui, il y a effectivement une ambiance assez positive parce qu'on sait que c'est par l'intermédiaire et par la médiation de l'Oman en fait que ces relations ont lieu entre les Saoudiens et les Yéménites. Et donc là, c'est très positif. Et en fait, je pense que les deux parties veulent s'en tenir effectivement à la médiation et à l'intervention omanaise et pas du tout à la présence américaine. Et malheureusement, encore moins aussi à la présence des envoyés de l'ONU, qui semble plus prendre le parti des agresseurs que des agressés, comme Merci. C'est souvent le cas dans les conflits dans la région.
Merci Madame Midani, merci à nos deux invités, à notre expertise du jour, que je rappelle le sujet concernant donc le Yémen et son défilé militaire qui arrive à un point extrêmement important dans les négociations entre la coalition et le Yémen. C'est ici que je vous dis au revoir, à bientôt pour un autre sujet du débat. Au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Les États-Unis se dirigent-ils vers une nouvelle crise, 15 ans après la crise du crédit de 2008? Les analystes économiques mettent en doute les allégations de boom économique du gouvernement américain. Les États-Unis pourraient se diriger à nouveau vers des troubles économiques 15 ans après que la crise financière de 2008 ait secoué le pays, affirment des experts. Le géant financier mondial Lehman Brothers a déposé son bilan le 15 septembre 2008, plus de 150 ans après sa création. Ce fut la première grande victime américaine de l'effondrement des prêts hypothécaires à risque. Le premier avertissement de la crise du crédit est venu un an plus tôt, avec le petit prêteur hypothécaire britannique régional Northern Rock, après avoir demandé à la Banque d'Angleterre un soutien en liquidité en raison de son modèle économique basé sur la titrisation et dangereusement surendetté. D'énormes plans de sauvetage de banques jugées trop importantes pour faire faillite, financées par les contribuables, ont été accompagnés de mesures d'austérité gouvernementale qui ont réduit les dépenses sociales et provoqué des troubles à travers l'Occident. L'économiste Jack Rasmus a déclaré à Sputnik que la réponse du gouvernement aux crises consistait à donner d'une main et à reprendre de l'autre, rejetant ainsi les gens dans la pauvreté. Pendant la crise du Covid et le confinement, certains programmes ont été créés, des programmes sociaux, en d'autres termes, pour empêcher le pays de s'effondrer totalement, a déclaré Rasmus. Mais ces programmes sociaux ont été supprimés. Dès qu'il est apparu que l'économie était en train de rouvrir, les démocrates américains ont commencé à réorienter les dépenses des programmes sociaux vers des subventions aux investissements des entreprises. Ces programmes comprenaient des services de garde d'enfants qui constituaient le principal contributeur à l'élimination de la pauvreté, mais cela n'a duré que 6 mois. Et lorsqu'ils ont retiré ce programme, les gens se sont retrouvés de nouveau dans la pauvreté. Il a souligné que l'ancien président Barack Obama avait utilisé le même tour de passe-passe après la crise de 2008-2009. Obama a dépensé 787 milliards de dollars en guise de sauvetage, puis 2 ans plus tard, il a convenu avec les républicains de réduire les dépenses dans les programmes, l'éducation et tout le reste de plus de 1 000 milliards de dollars, a déclaré Rasmus. Alors, ils donnent d'une main pendant la crise et quand la crise est passée, ils le reprennent. C'est exactement ce que Biden a fait. Cette fois, ils ont dépensé plus de 2 000 milliards de dollars dans ces programmes sociaux. Chômage, allocations, échecs, garde d'enfants, etc. 2 000 milliards de dollars, ajoutait le commentateur. Mais ensuite, en 2022, ils l'ont fermé. Le gestionnaire de patrimoine David Tavil a déclaré à Sputnik que même si la réserve fédérale américaine tentait de créer une nouvelle crise du crédit pour contrôler l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, cela n'aurait d'effet qu'une fois que le reste de l'argent de relance Covid imprimé virtuellement par la Fed aurait été dépensé. Il faudra du temps pour que la hausse des taux par la Fed se poursuive et se répercute sur l'économie et mette suffisamment de pression sur les dépensiers, les consommateurs, pour qu'ils continuent et réduisent leurs dépenses, a déclaré Tavil. Vous ajoutez à cela le fait que les consommateurs ont beaucoup d'argent excédentaire à la suite des mesures de relance liées au Covid. Les gens sont devenus fous en termes de dépenses, leurs capacités de défense sont devenues incroyables. Et donc, cela a fait monter les prix. Alors que le président Joe Biden vante le succès des politiques dites « bidénomiques » de son administration, certains pensent que la croissance est sur le point de se heurter à un mur. Des tonnes d'argent ont été injectées dans le système. Maintenant, ce retrait doit avoir lieu ici. La Fed doit prendre fin. A prévenu David. Cela ne peut pas durer éternellement, car cela devient alors un problème pour le gouvernement fédéral. Mais le bilan de notre gouvernement est brisé, et le parti doit donc prendre fin. L'expert du marché Todd Buba-Horwitz a déclaré à Sputnik qu'un problème majeur était les médias menteurs qui vous donnent de fausses informations avec le président qui, avec ses nouvelles publicités, vous dit quel excellent travail il a fait pour l'économie. Il a déclaré que le chiffre officiel de l'inflation de 3,7% était une blague risible et que le taux réel était d'environ 20%. Les 3,7% excluent la nourriture et l'énergie et le faible pourcentage d'utilisation de la nourriture et de l'énergie représente 4% du total de la jauge totale. Donc, si vous me dites que la personne moyenne, seulement 4% de son argent va à la nourriture et à l'énergie, je te traiterai de fou, a déclaré Horwitz. En dehors d'une urgence, notre dépense numéro 1, cette nourriture et cette énergie disparaissent. Vous devez faire le plein de votre voiture. Vous devez chauffer votre maison. Vous les gardez, manger de la nourriture. Vous devez nourrir votre famille. La nourriture continue d'augmenter, le pétrole brut continue d'augmenter, l'essence à la pompe continue d'augmenter, le chauffage continue d'augmenter, les coûts de l'emploi continuent d'augmenter. La bidénomique est un échec total, comme l'ensemble de l'administration, en ce qui concerne la prise en charge de l'économie, a-t-il ajouté. Le commerçant du marché a imputé une grande partie de cette inflation aux taxes d'accises étatiques et fédérales sur le carburant des véhicules. Ils font donc monter les prix de l'essence. Ils reçoivent plus d'argent des impôts du peuple américain, ce qui explique exactement pourquoi l'inflation est hors de contrôle. Il a également mis en doute les perspectives économiques optimistes de la Maison-Blanche. « Je me fiche de ce que l'on dit. Nous sommes en récession », a déclaré Horwitz. « Nous ne proposerons pas comme ils voudraient le croire. Le gouvernement dit que nous avons créé des emplois, mais les chiffres réels et les faits sont que nous avons perdu 514 000 emplois au cours de l'année civile 2023. » Voilà donc les raisons pour lesquelles les chiffres sont tous des déchets.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.